Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Nous allons aborder une nouvelle série, une grande série, puisqu'il s'agit des grandes avancées en médecine. Et nous avons choisi quelques thèmes qui sont, à mes yeux en tous les cas, et c'est le cas de le dire, vous allez comprendre pourquoi, sont porteurs en tous les cas d'un avenir rapide. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Serge Picot, qui est directeur de recherche à l'INSERM, responsable de l'équipe de traitement de l'information visuelle dans la rétine à l'Institut de la Vision. Vous avez donc compris que nous allons parler de l'œil, de la rétine artificielle, de tous les progrès qui s'annoncent et qui se développent ici ou là, mais surtout dans l'Institut de la Vision, qui est dirigé par Monsieur Sahel, que nous avons reçu ici, et qui est donc avec une partie de son équipe les points forts sur le plan mondial de toute cette réflexion et pratique. Merci d'être là, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Picot, vous êtes chercheur, vous êtes donc, vous dirigez une équipe dans cette fameux Institut de la Vision qui, moi, me fascine. Alors, je dis pourquoi il me fascine. C'est parce que, d'abord, il a des talents incontestables, mais surtout parce qu'il réunit clinique, recherche, développement. Je trouve que c'est un exemple, quoi. Il y a des malades, il y a des chercheurs, il y a des applications et il y a du développement, y compris industriel, puisque on va le voir d'ailleurs dans notre thématique aujourd'hui. Il y a besoin de start-up et d'idées nouvelles.
Voilà. Ben, c'était l'idée au départ du professeur Sahel de réunir sur un même site de la recherche fondamentale de très haut niveau, mais aussi en fait de la recherche qui travaillerait plus sur les pathologies de la vision, sur les pathologies de la rétine, et puis qui puisse aller jusqu'en clinique, puisque le professeur Sahel est clinicien. Donc il avait une véritable envie de pouvoir amener des stratégies thérapeutiques en clinique et de faire en sorte que ça arrive rapidement. Et donc il a fait le constat qu'il fallait en fait mettre dans un même site à la fois des chercheurs très performants et puis aussi les cliniciens au contact de ces chercheurs pour que le transfert vers la clinique puisse être très rapide.
Alors j'ai appris qu'il y a 5 patients qui bénéficient là d'une nouvelle mode de rétine artificielle pour permettre donc de voir. Nous allons en discuter dans un instant. Mais une question un peu choc, est-ce que la greffe de l'œil, c'est pour demain ?
Alors la greffe de l'œil, c'est vraiment très complexe. Il faut savoir quand même qu'il y a à peu près 1 million de cellules ganglionnaires qui sont connectées entre l'œil et le cerveau. Et donc vous imaginez, c'est comme si vous vouliez avoir un câble et reconnecter ce 1 million de fibres. Donc c'est vraiment très 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 difficile. Et donc pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Il y a des travaux qui montrent que ces fibres, elles peuvent se remettre à pousser vers le cerveau.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a des animaux pour lequel il y a une repousse de la fibre optique.
Oui, alors c'est vraiment les balbutiements, je dirais, de cette recherche. On constate que maintenant, il y a des moyens pour arriver à augmenter le nombre de ces axones qui repoussent vers le cerveau. Mais ils sont encore peu nombreux. Et donc, il faut
mal
vraiment arriver à...
Leur processus est mal identifié.
Oui, et puis
mais quand même.
Pour voir, il faut quand même beaucoup de ces éléments qui soient connectés au cerveau. Donc, pour l'instant, c'est pas suffisant, mais on peut avoir certains espoirs dans ce sens-là.
Et il y a des équipes, je crois, aux États-Unis, à Pittsburgh, qui ont ce programme en vue. Alors, c'est le cas de le dire encore une fois, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont exactement.
Le professeur Sahel a monté un projet dans ce sens-là, pour essayer de voir...
Quel est le projet que le professeur Sahel n'a pas monté On peut plutôt prendre le vrai dans l'autre sens.
Il est toujours un peu à la frontière de finalement de la science-fiction et puis de la réalité. Et finalement, vous savez, quand nous avons commencé les travaux sur la rétine artificielle, dans les années 2000, c'était vraiment de la science-fiction. Et comment une équipe comme la nôtre, où on était à l'époque une vingtaine, on pouvait rentrer en compétition avec des entreprises américaines qui étaient déjà en clinique. Et ça n'a pas arrêté le professeur Sahel. Moi, j'étais très dubitatif.
Mais un jeune chercheur.
J'étais.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce terrain d'ailleurs justement?
J'ai
le hasard, mais y a-t-il un hasard?
On peut se poser la question. J'avais une tante qui était aveugle. Voilà. J'ai commencé à travailler sur la vision de la mouche.
Oui.
Et puis j'ai évolué au cours de mes expériences vers la vision de la salamandre.
Oui.
Et puis après, bien quand j'ai voulu rentrer en France, j'ai cherché un laboratoire qui travaillait. J'étais à l'université de Berkeley, aux États-Unis, et je cherchais à rentrer en France. Et là, j'ai regardé un peu le panorama en France. Et j'ai trouvé cet institut à Strasbourg, où était le professeur Sahel, et où on faisait des cultures de cellules humaines de rétine. Et je me suis dit, peut-être, ça va être le moyen de comprendre la vision, non plus de la salamandre, non plus de la mouche, mais peut-être de l'homme.
Qu'est-ce que ça vous a appris, salamandre et mouche?
Finalement, les mécanismes sont un peu similaires. Mmh. On trouve actuellement des cellules de la rétine humaine, des cellules ganglionnaires qui en fait envoient en fait l'information sur les rythmes circadiens, c'est-à-dire veille, jour, jour, nuit. Et en fait, ces cellules sont capables de recevoir, d'être un peu comme des photorécepteurs. Et surprenamment, leur système de photoréception est le même que celui d'un photorécepteur de mouche. Donc vous voyez, finalement, il y a une grande continuité entre le fonctionnement de la rétine, finalement, de la mouche, de la salamandre, jusqu'à l'homme. Il y a des similitudes. Et l'étude, en fait, de ces organismes plus simples permet de comprendre le fonctionnement de notre vision.
Alors, justement, peut-être pour nos auditeurs, on va juste faire le béaba de la vision, parce que c'est tellement complexe, hein, puisqu'il y a l'œil antérieur, l'œil postérieur, enfin, je veux dire, si on va refaire un petit peu, qu'est-ce qui fait qu'on voit déjà une image qui nous entoure, donc les différentes chambres, les différents compartiments de l'œil jusqu'à le fond, donc, qui est rétinien, mais dont on va discuter ensuite, parce que la rétine, il y a combien de millions de cellules?
Il y en a plusieurs centaines.
De millions?
Oui.
Alors, tout d'abord la cornée.
La cornée, c'est vraiment la partie, la surface de l'œil.
Là où glisse la paupière, les larmes.
Voilà.
Donc le plaisir.
Qui est d'ailleurs très sensible, qu'il faut... à toute lésion.
Je parlais d'ailleurs de la grève de l'œil, puisqu'on fait les grèves de cornée, les grèves de cristallin. Oui. Enfin voilà, on peut étendre. Donc la cornée qui protège, devant transparente.
Qui est vraiment la surface, qui est aussi une optique, une première optique. Puis ensuite, on a une deuxième optique qui va être le cristallin et qui va permettre de focaliser la lumière sur la rétine, justement. Et puis après, donc...
cristallin, il ne reçoit pas toute la lumière. Il a un système de diaphragme devant lui.
C'est la pupille,
c'est
la pupille. Excusez-moi. Donc il y a la pupille qui va être le diaphragme, qui va limiter en fait la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Finalement, il y a souvent une comparaison qui est faite entre l'œil et un appareil photo classique, où en fait il y a un diaphragme qui limite la quantité de lumière qui rentre dans l'œil, comme dans un appareil photo, et c'est la pupille. Puis après, il y a des optiques, comme dans l'appareil photo. Donc les optiques, c'est la cornée et le cristallin qui focalisent en fait la lumière sur le film. Et le film, c'est en quelque sorte la rétine.
Voilà, il y a l'écran, on va dire, qui est derrière, comme ça, un peu curve, et qui, donc après tous ces passages, reçoit donc l'image. Alors venons-en à la rétine, qui est donc très très fine, mais qui est quand même constituée, alors pas uniquement de bâtonnets et de cônes, il y a énormément de cellules dont on apprend peut-être à chaque fois le rôle de soutien, le rôle d'aiguillage qui va avec.
Donc il y a d'abord les photorécepteurs, ces cellules qui transforment finalement la lumière en une activité électrique. Donc il y en a effectivement deux types. Des bâtonnets qui permettent la vision nocturne et puis des cônes qui permettent la vision des couleurs et la vision diurne. Donc dès qu'on voit des couleurs, finalement, ce sont nos cônes qui fonctionnent. Et finalement, il y a des patients dont les bâtonnets ne fonctionnent pas et qui ne s'en rendent pratiquement pas compte.
Si ce n'est à la tombée de la nuit.
À la tombée de la nuit, parfois.
Il
y a même des patients qui, parfois, ne s'en rendent même pas compte, puisque finalement, dans notre société... Maintenant, on a toujours de la lumière.
Donc on a ces donc couleurs avec des fois des troubles, hein, les daltoniens et tout ça, hein, je veux dire, qui confondent les couleurs. Et puis donc ces bâtonnets qui nous permettent de voir dans la pénombre. Alors il y a des animaux, les chats par exemple, eux ont beaucoup de bâtonnets pour voir la nuit.
Ben en fait ils ont aussi un système comme un petit miroir à l'arrière de l'œil qui permet en fait de les photons, ces grains de lumière qui seraient passés à travers les photorécepteurs sans être captés par les photorécepteurs, en fait peuvent revenir sur cette espèce de miroir, ce qui augmente en fait leur capacité visuelle à l'obscurité.
Ah, c'est ce qui donne ces yeux phosphorescents la nuit.
Voilà, ce qui fait que parfois il y a un reflet. Et on voit ces yeux effectivement, puisque finalement c'est ce reflet de la lumière qui nous revient, qui est en fait réfléchi sur cette espèce de miroir qu'ils ont au fond de l'œil.
Alors, photorécepteur, donc on va remonter progressivement, mais avant ça, quelques questions. L'œil est formé une fois pour toutes au stade fœtal?
Oui, donc on a notre œil qui est mature pratiquement au niveau de la naissance. Et il y a certaines espèces, par contre, comme les poissons, qui arrivent à régénérer les cellules de la rétine. On peut leur couper parfois la queue, par exemple, et elle va repousser. Ben finalement, l'œil, c'est un petit peu pareil. Donc en fait, on cherche aussi à comprendre ces mécanismes, parce que si on arrivait à recréer des cellules chez les patients, eh bien, on pourrait compenser la perte des cellules et régénérer un petit peu cette rétine. Donc même à partir de certaines cellules de la rétine, il y a des travaux qui montrent que, par exemple, les cellules de soutien, on les appelle les cellules gliales, on peut parfois arriver à les transformer en neurones, voire en photorécepteurs.
Cellules gliales dont on parle beaucoup actuellement sur le cerveau, qui serait donc beaucoup plus que un rôle beaucoup plus important qu'auparavant dit de soutien, qui ont un rôle presque fondamental par rapport aux neurones d'ailleurs existants. Et là donc on est en train sans doute d'avancer sur une meilleure compréhension de toutes ces cellules dans un tout petit espace, je dirais.
Mais alors donc on a les photorécepteurs, mais on a aussi deux couches de neurones. Et ces neurones vont extraire les signaux qui doivent être envoyés au cerveau. Et par exemple, dans la rétine, il y a déjà des cellules qui sont sensibles aux mouvements. Donc aux mouvements verticaux, aux mouvements horizontaux, et même à des mouvements de zooming, c'est-à-dire quand une image s'approche, eh bien il y a des cellules qui vont réagir et qui vont en fait informer le cerveau sur cette approche d'un objet qui peut être finalement un objet qui s'approche dangereusement vers nous.
Est-ce que s'il y a des altérations, cette fonction peut être perdue? Alors, ou en tous les cas altérée?
Ben oui, il y a beaucoup de maladies où malheureusement, on va perdre soit les photorécepteurs, soit ces cellules qui connectent au cerveau et qui envoient les informations au cerveau. Donc il y a plusieurs pathologies qui peuvent induire une cécité ou une malvoyance.
Alors on est donc sur une constatation, c'est que finalement la rétine c'est le cerveau.
Ben, la rétine ça fait partie du cerveau, ça fait partie du système nerveux central, c'est en fait un petit cerveau délocalisé puisqu'on va retrouver tous les neuromédiateurs, c'est-à-dire les molécules chimiques qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. Donc on va retrouver tous ces neuromédiateurs, que ce soit des neuromédiateurs qu'on appelle glutamate, GABA, glycine, donc acétylcholine, peut-être vous avez déjà entendu parler de tous ces neuromédiateurs, eh bien on les retrouve dans la rétine et ils vont justement permettre à la rétine d'extraire les informations importantes avant de les envoyer au cerveau. On compare parfois finalement la rétine à un petit calculateur, un petit ordinateur délocalisé de manière à ce que l'information soit envoyée déjà sous un mode un peu compact.
Il y a un phénomène de captation de l'information. Il faut avoir les bons bâtonnets et les photorécepteurs et les cônes. Et puis il y a un problème d'intégration. Il y a tout un système d'intégration pour faire passer le message, si je puis dire, qui va. Alors en plus c'est compliqué parce que les voies se croisent dans le chiasma.
Mais à la limite on peut comparer finalement l'œil à comme une caméra, donc un capteur qui juste capterait l'image, et puis derrière, un microprocesseur qui analyse cette image pour en envoyer que des informations utiles au cerveau, et pouvoir finalement le décomposer sous différents canaux d'information qui vont envoyer en fait l'information au cerveau.
Donc on comprend bien qu'on va avoir à travailler sur ces photorécepteurs, hein, ce capteur, mais surtout et beaucoup sur
le calculateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, lorsque les patients perdent les photorécepteurs, donc perdent finalement un peu comme la matrice de la caméra, il leur reste souvent le calculateur. Et c'est là qu'on a pu intervenir pour en fait tout ce qui était restauration visuelle, puisqu'on s'est dit finalement, il nous manque juste les photorécepteurs, le capteur, mais on garde le calculateur. Donc, est-ce qu'on peut pas mettre finalement, au lieu d'avoir une matrice de photorécepteurs naturels, mettre une matrice de photorécepteurs électroniques qui va s'interfacer avec le calculateur naturel pour que ce calculateur, il puisse à nouveau envoyer des informations au cerveau.
Alors, les informations au cerveau, elles arrivent sur une zone particulière qu'on appelle en arrière du cerveau, la zone occipitale, l'aire visuelle, on va dire. Mais est-ce que c'est la seule qui prend les infos ?
Alors, il y a des informations qui vont un peu partout. Il n'y a pas juste une aire qui reçoit des informations. Il y a des informations purement visuelles.
Mais si cette aire
purement visuelle,
est détruite, elle va d'elle-même entraîner cette destruction va entraîner un trouble important.
Oui. Mais les troubles majeurs sont quand même au niveau de la rétine. En vision, en fait, la majorité des pathologies sont liées, en fait, à une altération dans l'œil. Parce que finalement, le travail qui est fait par l'œil, donc déjà au niveau des photorécepteurs, est très demandeur en énergie. Donc, tout ce qui va affecter le métabolisme risque d'affecter les photorécepteurs. Mais aussi, ces cellules ganglionnaires qui envoient l'information au cerveau.
Qui sont derrière les photorécepteurs.
Sont derrière les photorécepteurs. Ces cellules-là, elles sont extrêmement sensibles aussi. Parce que vous vous rendez compte, elles envoient l'information depuis l'œil jusqu'à l'arrière du cerveau. Donc c'est un trajet qui est très très long. Et ce trajet fait qu'en fait, ces cellules sont aussi extrêmement sensibles. Et en particulier, il y a certaines maladies mitochondriales. Donc les mitochondries, on les trouve dans toutes les cellules. Il se trouve que ces cellules ganglionnaires sont bien plus sensibles à ces troubles des mitochondries. Et donc, on va avoir une dégénérescence de ces cellules dans les cas particuliers d'anomalies mitochondriales.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de maladie? Parce que tout le monde connaît les glaucomes, les cataractes, et les troubles de la myopie et la presbytie. Mais là, on est sur quelque chose qui touche la rétine. Quelles sont les principales affections et à quel moment de la vie ça arrive? Qui touche la rétine.
Alors, il y a beaucoup de maladies déjà héréditaires.
Génétiques,
c'est-à-dire il y a une mutation dans un gène qui va, en fait, induire une dégénérescence. En particulier, il y en a beaucoup qui affectent les photorécepteurs, particulièrement d'ailleurs les photorécepteurs à bâtonnets. Et donc, on va avoir une dégénérescence de ces bâtonnets. Et étonnamment, la perte des bâtonnets fait que les photorécepteurs à cône, ceux qui permettent la vision diurne, vont aussi dégénérer de manière secondaire. Et un des travaux majeurs de José Sahel avec Thierry Leveillard a été de trouver en fait une molécule qui est libérée par les bâtonnets et qui permet de faire survivre les cônes. Et là, ils sont en train donc de développer une approche thérapeutique où on réintroduit cette fameuse molécule, cette protéine, qui diffuse, donc on l'appelle le facteur de survie des cônes, libéré par les bâtonnets. Et donc, par thérapie génique, on va réintroduire le code génétique de cette protéine dans une autre cellule que les bâtonnets, de manière à ce que les cônes reçoivent en continu cette fameuse protéine et pour les faire survivre. Donc ça, c'est une approche qui devrait prochainement rentrer en clinique et qui est vraiment un travail qui a commencé il y a plus de 20 ans à Strasbourg et qui arrive maintenant en clinique.
Et sur le plan des, donc il y a des maladies héréditaires, effectivement, on s'en rend pas compte, mais c'est une véritable spécialité, la génétique des troubles de l'œil, de la vision. Les plus importantes quantitativement, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence de la macula, c'est-à-dire du fond de la rétine qui vient surtout avec l'âge, ou bien d'autres maladies qui viennent parfois plus tôt, comme la rétinite pigmentaire, voilà. Et qui vont altérer justement ces fameux photorécepteurs.
Donc, fameuse maladie où il y a une altération des bâtonnets puis des cônes et donc où les patients perdent totalement la vision, c'est justement cette rétinopathie pigmentaire. Et puis après, on a d'autres pathologies où les photorécepteurs dégénèrent, en particulier la dégénérescence maculaire liée à l'âge, où on constate en fait la perte des photorécepteurs dans la région centrale, c'est-à-dire la macula, cette zone très très particulière où on a une très très grande acuité visuelle et on constate que lorsque l'on regarde un visage, que finalement c'est avec cette macula que l'on regarde les yeux, la bouche et que finalement on reconstruit son image. Donc en fait cette zone elle est extrêmement importante pour tout ce qui est perception très fine des objets, perception très fine des visages, et de notre environnement.
Est-ce que les travaux sur la reconnaissance faciale s'approchent de vos images?
Alors, nous, on ne travaille pas trop sur
oui,
ce
mais
genre
sur le plan,
de questions.
Sur le plan quand même technique, puisque après, on va parler des rétines artificielles.
Oui.
Je veux dire, là, il y a une caméra qui permet de voir le détail. Bien sûr, elle va comparer avec les big data pour essayer de trouver le nom de la personne, mais sur le plan technique, c'est assez fascinant aussi.
Oui, c'est fascinant. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que l'information qui serait fournie au patient serait suffisante pour qu'il puisse identifier lui-même la personne et qu'il n'ait pas besoin d'un ordinateur pour identifier en fait la personne devant lui.
Il y a à peu près 1 million de personnes qui sont malvoyantes en France, 200 000 qui ont une cécité.
Je pense qu'il y en a beaucoup plus même, puisqu'en
fait,
il y a plus d'un million de personnes qui sont atteintes par la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et puis, il y a aussi d'autres maladies, malheureusement, comme le glaucome, où alors là, c'est les cellules qui connectent directement au cerveau qui dégénèrent, donc les cellules ganglionnaires. On a aussi, malheureusement, lorsque le diabète est mal contrôlé, la rétinopathie diabétique, où en fait, c'est aussi ces cellules qui se connectent au cerveau qui dégénèrent, et où en fait, les patients peuvent devenir aveugles. D'ailleurs, le diabète est la première cause de cécité avant 50 ans.
Nous allons parler dans quelques temps de la rétine artificielle, qui est le sujet qui est passionnant, je trouve. Et en attendant, un peu de musique.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue. Nous on crève.
France Culture, matière à penser, René Friedman.
Alors nous, après ce chant des partisans, pourquoi vous avez choisi ce chant des partisans, Serge Picot? Pourquoi pas hein,
pourquoi
justement...
pas. Non, c'est une chanson, je pense, qui... Mon père m'avait offert un disque quand j'étais très jeune. Et je pense que c'est aussi l'idée d'une action collective. Et en fait, en tant que chercheur, on a besoin de ce collectif, on a besoin de cette énergie aussi du collectif pour arriver à réaliser en fait nos objectifs. C'est un peu dans ce sens et je suis toujours ému par cette chanson.
Surtout chantée par la belle voix Yves Montand, bien sûr.
Voilà, on sent cette espèce de communion, de volonté, d'énergie qui monte, en fait.
Je comprends tout à fait. Et en plus, c'est le propre presque de l'Institut de la Vision d'avoir comme ça plusieurs aspects dont nous allons discuter de compréhension, de traitement, de réflexion, même d'éthique sur tous les aspects, et donc de voir que les choses ne marchent que si on est bien ensemble, ce qui a l'air d'être le cas en tous les cas dans votre grand groupe dirigé par le professeur Sahel. Et nous voilà donc revenus à justement la vision, votre thématique première, et peut-être donc expliquer comment est-ce qu'on peut concevoir, qu'est-ce qui a été fait pour remplacer la rétine. Est-ce que la rétine artificielle, c'est vraiment pour demain? Je sais qu'il y a 5 patients qui ont bénéficié là d'une technique particulière, donc j'aimerais que vous nous expliquiez.
Voilà. Donc l'essai clinique est donc conduit par l'entreprise Pixium Vision, en fait avec des implants qui sont finalement des photorécepteurs électroniques. Donc c'est une unité, donc une petite puce électronique, où en fait on a des éléments avec des photodiodes, c'est-à-dire des systèmes électroniques qui sont sensibles à la lumière, dans ce cas-là c'est de la lumière infrarouge, et qui va en fait permettre de produire un courant localement, et ce courant va permettre d'activer les neurones, puisque en fait, vous savez que les neurones, finalement, communiquent entre eux en produisant des courants électriques.
Et là, c'est-à-dire que vous allez implanter dans l'œil, devant ou derrière la rétine, des photorécepteurs, et qu'ensuite, vous allez pouvoir les envoyer leurs signaux.
Voilà, on va mettre cette plaque de photorécepteurs, donc cette petite puce électronique qui fait 2 mm de côté, on va la mettre sous la rétine, c'est-à-dire juste à la place des photorécepteurs, à la place d'origine des photorécepteurs. On va donc remplacer des photorécepteurs naturels par des photorécepteurs électroniques, puisque c'est ces photodiodes qui sont sensibles à la lumière, qui vont donc transformer la lumière en un courant électrique, exactement comme le fait un photorécepteur. Mais... Et donc ce courant électrique, il va venir activer les autres neurones, les neurones qui restent, qui demeurent dans la rétine, hein, toutes les autres couches dont je parlais tout à l'heure, qui sont un peu le calculateur. Et donc, on va réactiver ce calculateur qui va à nouveau envoyer une information visuelle au cerveau.
Alors, qu'est-ce qu'il faut comme instrumentation, je vais dire? Il y a donc cette petite plaque qu'il faut mettre au bon endroit. C'est long comme intervention?
Alors, l'intervention est assez courte, justement, par rapport à tout ce qui était fait avant, puisqu'en fait, il faut décoller un petit peu la rétine, pouvoir glisser dessous cette plaque de 2 mm par 2 mm qui va être placée donc au niveau de la macula, hein, à la place exactement où on avait la zone très sensible de la rétine, pour retrouver une perception visuelle dans cette zone.
Mais comment c'est relié comment à l'extérieur?
Cette plaque, il n'y a aucun fil. Il n'y a plus du tout de fil, la plaque est complètement
indépendante. Parce qu'avant, il y avait des fils.
Parce qu'avant, dans toutes les autres technologies, il y avait toujours un fil qui sortait de l'œil. Mmh. Et donc, bon, il y a un risque du fait de ce fil d'infection, etc. Mmh. Et puis, ça rendait la chirurgie très complexe. Mmh. Là, finalement, pour un chirurgien, c'est très simple d'arriver à mettre cet implant sous la rétine. Donc, les chirurgiens, déjà, sont très contents. Parce que, en plus, ça devrait permettre à de très nombreux chirurgiens de mettre ces implants. Alors, cet implant, je vous ai dit qu'il est sensible à l'infrarouge. Ce qui veut dire que le patient portera une paire de lunettes avec un petit écran infrarouge qui va venir activer localement certaines des unités, donc certains de ces photorécepteurs de la plaque électronique.
Il va capter les infrarouges.
Voilà, donc en fait, on va avoir un photorécepteur sensible à l'infrarouge qui va être sur cette puce électronique et qui va permettre du coup d'activer le circuit rétinien.
Et donc il y a cette transformation de cette énergie visuelle en énergie électrique justement nécessaire. Est-ce qu'elle a besoin d'un autre microprocesseur, de quelque chose qui va la...
Non, il y a en fait on va avoir besoin quand même que le patient il porte une paire de lunettes avec une caméra qui va acquérir les informations visuelles, un petit microprocesseur qui va permettre de faire les images en infrarouge sur l'afficheur qui va
être dans la lunette. Donc le microprocesseur, il est relié aux lunettes.
Donc on a un petit microprocesseur de poche qui est relié aux lunettes et qui permet justement de faire la conversion de l'image acquise par la caméra en une image qui va être présentée sur en fait l'afficheur qui va être devant le patient.
Je pensais qu'il y avait aussi d'autres voies de recherche à partir des cellules souches pour recoloniser peut-être la rétine.
Peut-être avant de partir sur ce nouveau terrain, je voulais aussi dire que pour essayer de faire revoir des patients aveugles, on a aussi développé une autre approche. Et une approche qui est cette fois biologique. Au lieu de mettre une puce électronique, on développe la thérapie optogénétique. Et c'est assez surprenant.
Alors c'est quoi l'optogénétique ?
L'optogénétique, c'est finalement utiliser le gène d'une algue, une algue unicellulaire. Donc cette algue, si vous promenez une lumière, elle va suivre la lumière. Et donc elle a un système visuel puisqu'elle suit la lumière, elle voit la lumière. Et en fait, ce système visuel, il est composé par une protéine qui est sensible à la lumière et qui génère un courant. Donc l'idée a été de se dire, bah, finalement, c'est exactement le même processus que l'on trouve dans un photorécepteur, mais c'est beaucoup plus simple, parce que dans un photorécepteur, dans nos photorécepteurs, il y a toute une cascade de protéines qui arrivent à transmettre la réception d'un photon en un courant électrique. Là, c'est une protéine qui fait tout, donc, qui est très simple, qui est moins sensible à la lumière, mais très simple. Et l'idée a été de prendre le code génétique de cette protéine, de l'introduire dans un vecteur de thérapie génique qui va permettre de porter le code génétique dans une cellule.
Donc on va
injecter le vecteur de thérapie génique dans l'œil, il va diffuser jusqu'à la rétine, et donc le vecteur de thérapie génique, il va introduire le code génétique dans des neurones résiduels. C'est-à-dire que par exemple, les cellules ganglionnaires qui sont encore connectés au cerveau, on va pouvoir leur introduire ce gène. Et de ce fait, lorsqu'elles vont exprimer cette fameuse protéine d'algue, eh bien ces cellules ganglionnaires, elles vont se transformer en des pseudo-photorécepteurs.
Et ça, c'est une fois pour toutes ou il faut renouveler ?
Alors ça, c'est une fois pour toutes. Ah. Donc en fait, on peut transformer finalement des neurones qui normalement ne sont pas des photorécepteurs en des photorécepteurs. Et donc cette approche qui peut paraître être une nouvelle étape dans la science-fiction, eh bien elle est déjà en clinique. Donc la société GeneSight Biologics vient en fait de commencer des essais cliniques où donc on injecte ce vecteur de thérapie génique et pour essayer de voir sur des patients qui ont une rétinopathie pigmentaire, est-ce que ces patients vont revoir grâce à cette protéine d'algue. Et donc ça, c'est une stratégie thérapeutique que nous avons validé aussi à l'Institut de la Vision, avec toute une équipe, en particulier Denise Dalcara, qui produit des vecteurs de thérapie génique, mais aussi Jens Dubel, qui est un électrophysiologiste important.
Je comprends très bien la nécessité de bien faire comprendre qu'il y a plusieurs voies dans ce que vous nous dites, toujours autour de la rétine, hein, d'ailleurs, mais il y a vraiment plusieurs voies.
L'idée, c'est on ne sait pas finalement quelle sera la technique qui permettra de donner la meilleure perception visuelle aux patients. Et donc l'idée du professeur Sahel a été toujours de se dire il faut éliminer aucune solution. Nous devons tout tester. Et on choisira au final ce qui permet aux patients de voir, de mieux voir. Et peut-être que finalement certains patients préféreront ou auront une meilleure vision avec une solution et d'autres avec une autre. Donc en fait, il faut élargir le plus possible l'éventail des possibles pour offrir ces solutions aux patients.
Alors, j'en reviens à la question sur l'utilisation de cellules souches, puisqu'on sait que les cellules souches qui sont à l'origine de toutes nos cellules, si on arrive à les diriger, vers des cellules, justement, vers des photorécepteurs éventuellement, et donc, est-ce qu'on peut les utiliser? Je crois qu'il y a des excès qui sont envisagés pour la DMLA, c'est la dégénérescence maculaire de la vision. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus, Serge Picot?
Alors effectivement, maintenant, à partir de cellules souches, on peut les reconditionner dans une direction pour les transformer en rétine, pour les transformer en cellules épithéliales qui sont sous la rétine, et on peut même les reconditionner en fait en œil complet, mais ou en cerveau même. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a maintenant aussi une source importante de cellules souches, parce qu'au début, le problème, c'était d'avoir des cellules souches qui étaient difficiles. Mais maintenant, en fait, il est possible, à partir d'un prélèvement de peau, d'arriver à reconditionner ces cellules en cellules souches pluripotentes. Et après, donc on fait le chemin inverse, puisqu'elles sont des cellules de peau, on les retransforme en cellules souches. Et donc après, on a de ce fait, en fait, une quantité importante de cellules pour produire éventuellement des cellules épithéliales. Et en fait, dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais aussi dans certaines formes de rétinopathie pigmentaire, c'est l'épithélium qui est déficient. Et donc l'idée a été, à partir de ces cellules souches, d'arriver à refaire une couche d'épithélium. Et donc Olivier Gouraud, à l'Institut de la Vision, a produit comme cela une couche de cellules épithéliales sur une membrane amniotique décellularisée. Donc il n'y a pas du tout de cellules, mais ça produit un support. Et l'idée, ça a été d'organiser un épithélium ex vivo pour pouvoir après le mettre in vivo.
Le transplanter.
Voilà, le transplanter et remplacer l'épithélium déficient. Et donc ces approches entrent en clinique. Il faut savoir qu'au Japon, il y a déjà eu un essai où en fait l'épithélium avait été produit à partir des cellules du patient lui-même. Et donc, en fait, il n'y avait pas de problème du tout,
de rejet
immunitaire, etc.
Il y avait une bonne acceptation.
Parce que alors, c'est maintenant, le problème, c'est que à partir de ces cellules, il y a un processus qui est très long, très difficile. Et il se trouve que le deuxième patient, en fait, il y avait eu des mutations dans tout ce processus, toutes les cellules qui avaient été reprogrammées, d'où la difficulté. Et donc là, maintenant, il y a tout un processus qui va se faire plutôt sur des cellules, comme pour les produits sanguins, en fait, où on a...
Des substrats qui sont produits par les cellules.
On va en fait avoir des lignées en fait, spécifiques qui vont convenir à certains patients. Et donc, on va avoir comme ça... il se trouve au Japon, par exemple, ils ont identifié qu'il faut à peu près 17 donneurs pour pouvoir couvrir, en fait, un peu tous les types de patients au Japon. Donc, dans les pays, on a peut-être un peu plus de donneurs types. Mais l'idée, c'est de produire en fait des cellules épithéliales à partir de donneurs bien identifiés.
Donc on parle pas forcément de cellules embryonnaires, de cellules souches embryonnaires, mais des cellules iPS qui sont des cellules adultes que l'on retransforme en
embryonnaires. L'idée au départ, ça a beaucoup été des cellules souches qui étaient effectivement plutôt embryonnaires, mais dans la mesure où maintenant on peut obtenir des cellules souches à partir de cellules de peau, ça enlève toute la problématique éthique autour en fait du don de cellules embryonnaires et en particulier ces cellules souches. On peut aussi produire des cellules du cerveau. Donc pour tout ce qui était thérapie cellulaire, on va pouvoir utiliser ces cellules souches dérivées de prélèvements de peau ou de prélèvements de cellules sanguines ou autres.
Vous êtes optimiste dans toutes ces recherches?
Ah ben pour être chercheur, il faut être optimiste, sinon on ne fait pas ce travail.
Vous êtes chercheur ou vous êtes trouveur?
Non, je pense qu'il faut... On a besoin de cet optimisme, parce que parfois c'est difficile, on a des résultats négatifs. Hein. Avant d'arriver à ces résultats-là...
Non, mais je voulais dire, c'est pas un état d'esprit que je vous souhaite, mais je veux dire, c'est un état... Je veux dire, on s'approche réellement... Là, j'ai bien compris que sur tous les domaines, que ce soit la greffe de rétine, que ce soit l'optogénétique, que ce soit les cellules souches pour ne prendre que cela, il y a des essais qui sont en cours.
Ah oui, il y a beaucoup d'espoir pour beaucoup de pathologies. Et moi, je participe souvent à des assemblées d'associations de patients et je leur dis, mais regardez, maintenant, il y a parfois même des entreprises qui viennent discuter avec les patients. Et il y a 20 ans, 10-20 ans, on ne voyait jamais ce cas. Donc c'est vraiment... moi, je suis extrêmement optimiste pour tous ces patients qui avaient des pathologies où avant, on leur disait « rentrez chez vous, vous allez devenir aveugle ». Non, maintenant, on ne doit plus dire ça aux patients parce qu'il y a vraiment... tellement de solutions thérapeutiques qui sont en train de se mettre en place qu'on peut espérer que tous les patients puissent bénéficier d'une vision utile au moins jusqu'à la fin de leur vie.
Et qu'en est-il alors des aveugles de naissance ? Est-ce que c'est une situation
alors,
que vous
abordez
également ? C'est
une situation un peu difficile, mais finalement, récemment, il a été montré par des chercheurs américains qui sont allés dans des pays comme l'Inde ou le Soudan et qui ont en fait opéré des enfants qui avaient eu une cataracte congénitale très tôt dans l'enfance, voire à la naissance. Mmh. Et avant, on considérait que si on n'avait pas vu avant 5 ans, il y avait une période critique, 5-6 ans, où on ne pourrait plus voir après. Et ces enfants qui avaient donc eu une cataracte très jeune, mais qui ont été opérés quand ils avaient 15, 20 ou plus, en fait, il se trouve qu'ils apprennent à voir. Donc ça, c'est un résultat extrêmement nouveau qui brise un peu tous les dogmes sur la plasticité du cerveau et sur la capacité à apprendre à voir. Et donc, on peut se poser la question, finalement, si tous ces patients qui étaient aveugles de naissance, on ne va pas pouvoir leur redonner une vision. Et si les implants qui sont actuellement en clinique fonctionnent très très bien et lorsqu'on aura établi leur fonctionnement, comment réhabiliter les patients, on peut se poser la question finalement, est-ce que ces implants ne pourront pas s'adresser à certains patients qui étaient aveugles de naissance, mais dans ce cas-là, ce n'est que les patients qui ont en fait perdu les photorécepteurs ou le fonctionnement des photorécepteurs à la naissance. Par contre, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de fonctionnement du nerf optique à la naissance, en particulier les prématurés, ceux qui étaient atteints à l'époque d'une rétinopathie du prématuré. Et donc là, en fait, on travaille aussi avec le professeur Sahel sur une approche. Donc pour tous ceux qui perdent le lien œil-cerveau, donc le nerf optique, d'essayer de voir est-ce qu'on ne pourrait pas réactiver les neurones, non plus au niveau de l'œil, puisque de toute façon il n'y a plus de lien œil-cerveau, mais directement au niveau du cerveau. Et donc, soit avec des systèmes électroniques, soit peut-être avec la thérapie optogénétique, où on pourrait venir activer optiquement des neurones du cortex visuel.
Aller là, dans la zone où, ils sont, où la vision est localisée, voilà, le plus grand nombre en tout cas.
Où on trouve en fait des...
Dans cette approche entre l'image, la possibilité... Quid, oui, je me pose une question d'un seul coup sur les rêves éveillés, quoi, c'est-à-dire les images, les yeux fermés. Et qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui n'a jamais vu ? Est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il peut construire comme image ?
Alors, je pense que là, ça arrive à la limite de mes connaissances, mais je pense que il a une autre manière de voir le monde. Et c'est toute la difficulté, puisque chez un patient qui est aveugle de naissance, en fait, son cortex visuel va être en fait colonisé par d'autres sens, ce qui peut expliquer parfois l'ultrasensibilité dans d'autres sens de certains patients, et donc aussi peut-être leur manière différente de voir le monde. Et ça,
on ne peut pas se mettre à leur place, mais en tous les cas, on peut les écouter et réfléchir de façon très étendue, comme vous venez de le faire, Serge Picon, nous donnant donc plusieurs pistes, je dirais, du traitement des troubles visuel, voire peut-être un jour de permettre aux aveugles de voir. Voilà, cette première émission sur les grandes avancées de la médecine se termine avec monsieur Serge Picot, directeur de recherche de l'INSERM, qui nous a donc parlé beaucoup de l'Institut de la Vision et de ses différentes voies de recherche. Cette émission est en partenariat avec le quotidien du médecin. Elle a été rendue possible grâce à Catherine Donnet, à Sandrine Chaperon, à Denis Journeau, à Colin Gruel et à Olivier Dupré. Vous pouvez retrouver toutes ces informations de la semaine sur le site internet franceculture.fr, les réécouter autant que vous le souhaitez et vous inscrire pour le podcast pour une écoute à la carte. Nous nous retrouvons dès demain pour parler d'immunologie et particulièrement d'immunologie dans sa place dans le traitement du cancer.